Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se plonge dans une série de documents assez passionnants. Ils nous viennent de la région académique Occitanie. Et le sujet, c'est l'intelligence artificielle dans l'éducation.
Oui.
On va essayer de décortiquer comment l'éducation nationale tente de cadrer cette technologie qui, bon, on le voit bien, débarque en force dans les salles de classe.
C'est ça.
Et la question de fond, celle qui traverse un peu tout ça, c'est l'IA, est-ce que ça va être une super collègue pour les profs ou une concurrente un peu flippante?
C'est exactement la tension qu'on ressent en lisant ces textes. Ils essayent de tracer un chemin entre un optimisme assez prudent et une méfiance bien réelle.
D'accord.
Notre but, ça va être de suivre ce cheminement. On part de la base, c'est quoi l'IA, selon eux, puis on ira vers les usages très concrets et on finira sur la boîte à outils éthique qu'ils proposent.
On va peser le pour et le contre, en somme.
En gros, c'est ça, tel que le voit l'institution.
Alors, allons-y. Ce qui m'a frappé d'entrée, c'est qu'il ne présente pas l'IA comme une technologie sortie de nulle part.
Non, pas du tout.
Il rappelle que son histoire est faite de cycles, avec des âges d'or où tout le monde s'emballe, et puis des hivers où les promesses retombent un peu, comme un soufflet.
C'est un bon point de départ. C'est beaucoup plus prudent que ce qu'on entend d'habitude.
Oui.
Oui, ça pose tout de suite un cadre plus réaliste. Et ça permet d'insister sur un point qui est crucial. L'IA, ce n'est pas pour demain. C'est déjà là.
C'est notre quotidien.
Exactement. Partout autour de nous. Les exemples qu'ils donnent sont très clairs. Hein. Le GPS qui nous guide, la reconnaissance faciale.
Les recommandations sur Netflix.
Voilà, les recommandations Netflix qui connaissent mieux nos goûts que nous-mêmes, parfois. Ce n'est plus de la science-fiction. Et c'est justement parce que c'est devenu banal que l'école est obligée de s'en emparer.
Et dans cette grande famille de l'IA, il y en a une qui met tout le monde en ébullition en ce moment.
L'IA générative.
C'est elle, la star. Les documents la définissent assez simplement comme une IA capable de créer des choses. Du texte, des images, de la musique.
Ah, à partir d'une instruction.
Le fameux prompt.
Exactement. Il cite les plus connus, évidemment. ChatGPT, le chat de Mistral AI, Suno pour la musique.
Et ce que je trouve intéressant, c'est la façon dont il démystifie son fonctionnement. On a tendance à imaginer une sorte de conscience.
Oui, une intelligence. Mais en réalité, ils expliquent bien que c'est une formidable machine à calculer des probabilités. Elle a engurgité des quantités astronomiques de données du web.
Et quand on lui demande quelque chose, elle ne réfléchit pas.
Non, elle prédit. Mot après mot ou pixel après pixel, ce qui est statistiquement le plus plausible pour la suite.
C'est une sorte de perroquet, en fait.
C'est ça, un perroquet extraordinairement doué.
Un perroquet sous stéroïdes. Ils ont d'ailleurs un schéma qui est très parlant pour illustrer ça.
Ah oui, je l'ai vu.
On voit tout le parcours. L'utilisateur entre son prompt, ça part dans une batterie algorithmique et un supercalculateur, et ça ressort en contenu généré. Mais ce qui est malin...
Ce sont les panneaux « Attention ».
Voilà. À chaque étape, ils ont mis des avertissements.
Et ces panneaux, c'est la clé de tout. Au niveau du prompt, ils alertent sur le risque de manipulation. Pour les données d'entraînement, ils pointent les biais, l'obsolescence, le non-respect de la propriété intellectuelle.
Tout y est.
Et à la sortie, pour le contenu généré, ils mettent en garde contre les fameuses hallucinations.
Ces réponses qui ont l'air très sûres d'elles, mais qui sont complètement fausses.
Exactement. Ce simple schéma, c'est déjà une carte de tous les pièges potentiels.
Ce qui nous amène, logiquement, au cœur du problème. Bon, maintenant qu'on sait ce que c'est, la vraie question, c'est qu'est-ce qu'on en fait dans une classe ?
On en revient à notre opposition de départ. Collègue ou concurrente ? Les documents sont très honnêtes là-dessus. Ils présentent ça presque comme un match de boxe.
Oui.
Et pour chaque promesse, il y a une menace qui lui fait écho. C'est ça qui est frappant. D'un côté, on nous vante la personnalisation des apprentissages, l'idée qu'un élève pourrait avoir un tuteur IA, sur mesure.
Et de l'autre ?
De l'autre, on nous alerte sur le risque énorme pour la vie privée et la collecte de données personnelles des élèves.
Le pouvoir et le danger viennent du même endroit.
Des données, c'est toujours ça.
C'est exactement ça, les deux faces de la même pièce. Autre exemple, l'IA comme soutien incroyable à la créativité.
Oui, mais en face, on a le problème de la propriété intellectuelle. L'image générée par l'IA, elle appartient à qui, vraiment?
C'est un casse-tête juridique.
Et puis, il y a ce point qui touche directement les enseignants, le risque de déprofessionnalisation.
C'est-à-dire?
L'idée que l'outil, à force d'être pratique, pourrait vider le métier de sa substance, de son expertise humaine.
Pour que ça ne reste pas théorique, il donne des scénarios d'usage très concrets. Certains sont plutôt enthousiasmants.
Oui, il y en a des pas mal.
Par exemple, un prof d'histoire qui fait dialoguer ses élèves avec un Napoléon virtuel sur une appli comme caractère.ai pour réviser.
On voit bien le côté ludique, immersif.
Oui, ou cet autre exemple où un enseignant demande à sa classe d'utiliser ChatGPT sur un sujet qu'ils connaissent déjà.
Ah oui, celui-là est intéressant.
Mais avec une seule consigne, trouver ses erreurs.
Là, on retourne complètement la situation.
L'IA n'est plus une source de savoir, mais un objet d'étude. C'est un sparring partner pour aiguiser son esprit critique. C'est assez fin comme approche.
C'est très malin, oui. Mais est-ce que ça ne risque pas, à terme, de renforcer l'idée que ces outils ne sont pas par nature fiables ?
C'est une bonne question.
Comment on fait, ensuite, pour leur apprendre à les utiliser comme de vrais outils d'aide ? C'est un équilibre qui est délicat à trouver.
C'est vrai. Et d'ailleurs, tous les scénarios ne sont pas aussi vertueux. Il y en a un qui m'a fait tiquer.
Lequel ?
Celui du professeur principal qui, pour aller plus vite, donne le bulletin PDF d'un élève à une IA pour qu'elle rédige l'appréciation générale.
Ah oui, celui-là, il est parlant.
Là, on sent qu'on franchit une ligne, non ?
On s'arrête 2 secondes là-dessus. Ça peut paraître anodin, un simple gain de temps. Mais c'est une porte ouverte sur tellement de problèmes.
Lesquels, par exemple ?
D'abord, quelles données sont envoyées ? Celles d'un mineur, en l'occurrence. Où sont-elles stockées ? Qui peut y accéder ? Et puis, au-delà des données, il y a la question du sens.
Du sens du métier.
Voilà. L'appréciation d'un prof, c'est un jugement humain, nuancé, basé sur des mois d'observation. Le remplacer par un algorithme, même pour une première ébauche, ça pose une vraie question sur la valeur qu'on accorde à cet acte pédagogique.
C'est clair que cet exemple, il cristallise toute la tension. On a d'un côté la promesse d'efficacité, le fantasme de se débarrasser des tâches chronophages.
Et de l'autre, des risques éthiques et juridiques énormes.
C'est un peu le Far West. Et c'est là que le ministère se dit qu'il faut un shérif.
Ou au moins un code de la route.
Exactement. D'où la proposition d'un cadre d'usage de l'IA en éducation.
L'idée, ce n'est pas de tout interdire. Ce serait absurde. C'est de poser des balises. Et tout ce cadre repose sur 4 grands principes. 4 piliers.
Alors, le premier, sans surprise après l'histoire du bulletin, c'est la protection des données.
Évidemment.
Le deuxième, c'est la transparence. On doit pouvoir comprendre comment l'outil fonctionne.
Le troisième, c'est le développement de l'esprit critique. C'est vraiment le fil rouge de toute leur approche.
Tout à fait.
Et le quatrième, et c'est celui qui m'a le plus surpris, c'est la sobriété.
Ce principe de sobriété est fondamental.
Et assez à contre-courant, je trouve.
Oui, complètement.
À une époque où on parle de course à l'IA, l'éducation nationale dit « Attendez, n'allons pas trop vite ».
Pause.
L'idée, c'est d'éviter la surconsommation numérique, de toujours se demander si l'usage de l'IA est pédagogiquement pertinent.
Et si une discussion en classe est plus efficace ?
Ou un travail sur papier, alors il faut privilégier le non-numérique. C'est un appel à la prudence, pour reprendre leur terme.
Et cette prudence est directement liée au pilier de l'esprit critique. Ils insistent énormément là-dessus. Il faut former tout le monde, élève comme prof, à ne pas prendre l'IA pour un oracle.
C'est la base.
On a parlé des hallucinations, mais il mentionne aussi les biais cachés dans les données, le fait qu'elle peut propager des stéréotypes sans même s'en rendre compte.
En gros, il faut apprendre à lui parler, mais surtout à ne pas la croire sur parole.
Et pour ça, il propose des outils très concrets. J'ai trouvé l'idée du jeu de cartes pour organiser un débat en classe vraiment bien pensé.
Ah oui, c'est une excellente idée.
On distribue aux élèves des cartes avec des arguments pour ou contre l'usage de l'IA dans une situation donnée.
Par exemple, une carte pour pourrait dire... Interagir avec une IA, c'est une occasion de réfléchir à sa propre façon de penser.
Ce qu'on appelle la métacognition.
Voilà. Et une carte contre pourrait être beaucoup plus terre-à-terre. Attention à la surexposition aux écrans.
Et ça force à argumenter.
Exactement. En l'obligeant les élèves à défendre des arguments qui ne sont pas forcément les leurs, on les fait sortir du simple « j'aime, j'aime pas ». On les pousse à construire une pensée structurée. C'est très formateur.
C'est malin comme approche. On voit bien la logique globale. On n'interdit pas, on forme. On donne les clés pour ne pas être un simple consommateur passif de technologie.
Mais un utilisateur éclairé.
Ils vont même jusqu'à inclure la question de l'impact environnemental, ce qui est assez rare, faut être souligné.
Ah oui, c'est vrai.
Ils montrent un graphique qui compare l'empreinte carbone de différents modèles d'IA et posent la question « Savoir ça, est-ce que ça change votre manière de l'utiliser ?»
Ça replace l'acte d'utiliser une IA dans un contexte beaucoup plus large. Ce n'est jamais un geste neutre.
Non.
Il a des conséquences cognitives, sociales, éthiques et même écologiques. Et la mission de l'école telle qu'elle est décrite ici, c'est de donner aux futurs citoyens les moyens de faire des choix en connaissance de cause.
Donc si on fait le bilan, la trajectoire dessinée par ces documents est assez claire. Pas question de se lancer dans une adoption aveugle et euphorique de la technologie.
Non, on en est loin.
L'approche est celle d'une intégration prudente réfléchie, où l'objectif final n'est pas la performance technique, mais bien de renforcer les compétences humaines.
En particulier l'esprit critique.
À commencer par l'esprit critique, oui. L'IA est vue comme un outil puissant, mais un outil qui doit rester à sa place, au service de la pédagogie, et non l'inverse.
C'est tout à fait ça. C'est une tentative de domestiquer la technologie plutôt que de se laisser déborder par elle. Mais ça nous laisse avec une dernière question. Une sorte de défi pour l'avenir qui est mentionné au détour d'un document.
Ah ça ?
Il est question d'un projet de développer une IA souveraine pour les enseignants.
Une IA française ?
Voilà, une IA maison à l'horizon 2026-2027. L'idée serait de garantir le contrôle des données et le respect de nos valeurs républicaines.
Sur le papier, ça semble être la solution idéale.
C'est séduisant, bien sûr. Mais ça soulève une question immense, dans un domaine qui évolue à une vitesse folle, dominé par des géants mondiaux aux moyens quasi illimités.
On voit de qui on parle.
Que signifie vraiment construire une IA souveraine à l'échelle d'un seul pays pour son système éducatif ? Comment créer un outil qui soit à la fois assez performant pour concurrencer les modèles privés, vraiment indépendants, et surtout...
qui reste pertinent pour un enseignant.
Exactement. Un enseignant qui peut, en un clic, accéder à une multitude d'autres outils plus puissants ou plus simples. C'est un peu le combat de David contre Goliath qui s'annonce.
C'est le grand défi qui se cache derrière cette belle ambition.
C'est exactement ça.